Bienvenue pour les Sécur épisode pour les PME. Je suis accompagné de Thomas. Est-ce que tu peux te présenter?
Oui, bonjour. Je suis Thomas Vénacheter. Donc, je suis le CEO de NeoTrust ici au Canada. On opère pour plusieurs types d'entreprises. Donc, aujourd'hui, le focus va être sur les PME, mais on sait aussi travailler avec des plus grands groupes. Et donc, pour les PME, on a des offres un peu sur mesure pour vous accompagner à mettre en place la cybersécurité.
Oui, et justement, on va aborder pour les PME tout ce qui est cyber. Qu'est-ce que la cyber, qu'est-ce que ça représente pour eux autres et toutes les différentes facettes. On va faire un survol parce que c'est quand même des sujets complexes et très vastes, mais on va aller commencer par petite bouchée. Fait qu'on va commencer par quelques éléments de cyber, puis je te laisse amorcer là-dessus.
Moi, je vais tout simplement rentrer dans le vif du sujet. Hein. Aujourd'hui, on entend parler d'attaques tous les jours, hein, que ce soit aux États-Unis avec MGM ou encore il y a peu de temps là avec le gouvernement du Canada. On est un peu tous concernés, hein, qu'on soit petit, gros. Aujourd'hui, je pense que presque 50% des entreprises ont déjà vécu une cyberattaque. Et globalement, en fait, la cybersécurité vient répondre à ces prérogatives de sécurisation des entreprises. Pour les PME, on s'entend que c'est compliqué d'aborder ces sujets parce que c'est un risque parmi d'autres. Hein. Aujourd'hui, on a le risque de continuer à faire son business, on a le risque de garder ses employés. Et donc, la cybersécurité, c'est un risque qui vient en plus. Mais on est tous exposés, qu'on soit humain ou qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit employé. On est tous sujets à des risques au niveau de cybersécurité. On a tous peur de se faire voler son identité, on a tous peur de se faire voler de l'argent. Et en gros, il y a des bonnes pratiques à mettre en place pour être moins exposé et moins exposé que les autres. Donc voilà, en gros, l'idée, c'est de se dire aujourd'hui, on peut être attaqué de plein de façons. On peut être piraté. Donc attention à pas galvauder les termes. Mais on peut être attaqué. On peut avoir un site bloqué parce que un attaquant va décider ou un adversaire va décider de bloquer notre site. Et dans cette situation, c'est très important de savoir comment réagir parce que dans l'émotion, on est bloqué, notre entreprise n'avance plus, mes employés ne savent plus comment se connecter, ne peuvent plus avancer et ils ont peur de perdre leur travail et d'avoir tout perdu.
Oui, c'est très important. Puis j'ai mis la nuance entre attaquer et pirater parce que ça veut, pour les professionnels, ça veut dire deux choses distinctes. Pour le grand public, la nuance est peut-être un peu plus floue. Quand on est attaqué, c'est juste qu'il n'y a pas eu une intrusion dans notre business ou dans notre entreprise. Quand on est hacké ou piraté, c'est que là, il y a eu vraiment quelqu'un qui est rentré à l'intérieur et qui est allé beaucoup plus loin en termes de dommages. Cette nuance est importante parce que, justement, au moment où on se parle, il y a eu les attaques de déni de service qui ont été faites sur le gouvernement du Québec. C'est un exemple. Parce que si c'est peu dommageable parce que c'est juste une perte de disponibilité de services, de façades, de communication qui sont mises en place. Donc, pour les PME également, s'ils sont seulement attaqués et c'est une perte de communication, justement, c'est de ne pas tomber sous le coup de l'émotion puis d'avoir une bonne maîtrise de ces informations et de l'importance de chacune de ces plateformes. Fait que si on a une plateforme informationnelle, le dommage ou l'attaque a peu de conséquences. Si le même attaque se passe sur une plateforme transactionnelle dans laquelle on fait des transactions, soit en B2B avec d'autres entreprises ou avec le grand public, mais là, notre source de revenus, elle est très dans un état précaire. Donc, à ce moment-là, c'est pas le même genre d'émotion, puis c'est pas le même genre d'effort qu'on va mettre en place. Donc, cette maîtrise-là est très importante, cette connaissance-là de comment nos infrastructures, comment nos informations, comment notre entreprise opère et qu'est-ce qui est important, de qu'est-ce qui est moins important si on en parle, la disponibilité dans le cas qui nous occupe, l'actualité qu'on a là.
Pour aller un peu plus loin dans l'actualité, c'est là que c'est important aussi d'avoir cette nuance. C'est aujourd'hui la loi 25 dont on entend tous parler. On voit que des personnes sont condamnées parce qu'elles ont volé des données personnelles. On en entend tous les jours et en fait, la grosse nuance entre être attaqué, généralement, on n'expose pas nos données, donc on n'a pas de problématique à devoir répondre en plus à un incident de confidentialité, à savoir est-ce que les données qui m'ont été volées, est-ce qu'elles sont exploitables? Est-ce que la personne qui est concernée par le vol de données, elle est exposée? Quel risque elle encourt? Donc, il y a vraiment une nuance qui est très importante. Et aujourd'hui, le fait d'être piraté va générer beaucoup plus d'angoisse, entre guillemets, que le fait d'être bloqué. Hein. Je pense que on est clair là-dessus. Pour revenir sur la loi 25, il faut garder en tête qu'il y a quand même trois jalons importants dans cette loi. Le premier, il est échu, il était en septembre dernier. Il y en a un deuxième qui est très important, qui arrive très très bientôt ou qui est même peut-être échu au moment où on se parle.
L'épisode va être diffusé, effectivement. On va déjà passer le deuxième jalon. Donc, les éléments, là, on va considérer que ces éléments-là sont déjà en action au moment quand cet épisode-là va être écouté.
Ouais, et donc oui, pour le coup, c'est quand même très important d'aujourd'hui savoir comment réagir quand on est face à ces incidents, vers qui se tourner aussi, parce que généralement quand on est une PME, je suis moi-même à la tête d'une PME, je suis concerné par le sujet, il va falloir savoir comment réagir, savoir comment analyser ce qui m'arrive, et savoir aussi est-ce que je dois communiquer à mes utilisateurs finaux le fait que des données ont été volées et les conséquences qu'il va y avoir derrière, elles sont importantes pour l'utilisateur, mais aussi pour mon entreprise. Il y a des pénalités qui peuvent arriver de par l'État, mais il y a aussi tous les risques d'image, entre guillemets, tout ce qui va pouvoir être raconté aussi sur les réseaux sociaux, etc. Les victimes, comment elles vont réagir. Donc, il y a un risque assez important. Cette loi, elle vient donner quelques limites quand même aujourd'hui, et des obligations pour les entreprises. C'est plutôt intéressant. C'est un bon début. Quand même, ça fait pas tout. Mais c'est quand même un très, très bon début de se dire, OK, je vais analyser les données que je récupère de mes utilisateurs, puis de mes employés. Et je vais regarder, est-ce que j'ai besoin de les conserver ou pas. Quelquefois, on est un peu tous comme ça. On a des données qu'on conserve depuis très, très longtemps. Et puis, on se dit, est-ce que finalement, j'en ai encore besoin? Et puis, c'est un peu comme un objet qu'on peut avoir à la maison et on se dit, et ça peut toujours servir. Là, en l'occurrence, pour les données, c'est quand même assez problématique parce que si on se les fait voler, même si elles remontent à un certain temps, on peut aussi se faire voler des données d'utilisateurs et puis être hors du scope de la loi. Donc, il faut bien être vigilant avec tout ça. On a quelquefois des rappels. Et puis, d'un point de vue aussi, on ne va pas se le cacher, d'un point de vue écologique, stocker des données pendant X années, c'est un gros volume. Et aujourd'hui, quand on parle de transition énergétique, on peut faire mieux, je pense, tous collectivement, à savoir, est-ce que je dois garder vraiment cette donnée? Est-ce que le mail que j'ai reçu en 2012 qui était une publicité, est-ce que finalement, je ne peux pas le mettre à la poubelle? Je pense qu'on peut faire tous un petit peu des efforts dessus. Donc voilà, la loi 25, juste pour terminer, il y a aussi une autre phase à la fin de l'année prochaine qui va être assez complexe à mettre en place. Les utilisateurs pourront demander, entre guillemets, le droit à l'oubli, donc mettre en place tout un mécanisme pour les PME d'identification d'où se trouvent les données, et puis de pouvoir répondre de manière assez simple à un utilisateur qui voudrait savoir « est-ce que tu as vraiment effacé toutes mes données ?» Donc, gardons en tête qu'on a encore un an ou encore moins de minimum de travail là pour pouvoir assurer au niveau de cette loi-là.
Oui, et puis c'est dans le fond la mesure la plus complexe qui est gardée pour la fin, parce qu'en termes de déploiement technologique, celle-ci présente des défis très, très importants. Et la loi 25 est un élément très structurant dans le contexte de la cybersécurité, puisqu'elle nous amène cette réflexion-là et essentiellement nous amène à réfléchir à tous les éléments de base qu'on doit maintenir en cyber et souvent ne sont pas exécutés à ce stade-ci de déploiement des technologies. Là.
Ouais, tout à fait. On entend parler depuis des années tous de mettre des patchs de sécurité, corriger des vulnérabilités. On le fait tous, on a tous des ordinateurs à la maison, mais concrètement, dans l'entreprise, c'est hyper important de se maintenir à jour. On va dire que c'est des basiques, mais en effet, au moment d'appliquer certains correctifs, on se demande, est-ce que ça va pas casser mon serveur? Qu'est-ce qui se passe s'il ne redémarre pas? Comment ça va se passer si mon antivirus ou mon EDR se met à jour et qu'il me bloque tous mes postes? On se pose un petit peu toutes ces questions-là, mais il faut bien garder en tête que c'est quand même vraiment, ça fait vraiment partie des basiques, comme la partie d'identifier ses utilisateurs, gérer ses droits d'accès. C'est vraiment très important d'avoir une bonne vue sur ces aspects-là, parce que c'est quand même la base. Et la loi 25 n'oblige pas à être correct sur ces aspects-là. Mais globalement, pour entrer en conformité avec la loi 25, si on n'a pas appliqué tous ces processus-là, on est quand même pas très très bien pour pouvoir répondre à un audit. Globalement, en fait, on a pas mal de choses à mettre en place. Gérer sa confidentialité. Il y a eu pas mal de changements avec la COVID aussi, où on travaille de plus en plus à la maison, donc on doit sécuriser aussi ses ordinateurs, ses ordinateurs portables, l'ordinateur de travail. Comment je fais quand j'utilise le même? Il y a des questions qui doivent être prises en compte très tôt et qui incombe généralement aux responsables d'entreprise, aux responsables de PME. Il faut en gros qu'on écrive des politiques qui permettent de garantir la sécurité de notre entreprise, de nos employés et puis de la vie privée de nos employés.
Tout à fait. Puis c'est ça qui est important dans ce cas-ci. Puis la jonction entre la loi 25 et la cyber, c'est qu'en général, quand on met une bonne hygiène de cyber en place, on est en grande majorité conforme à la loi 25. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'en cas d'incident de confidentialité, donc s'il y a une enquête de la commission d'accès qui vient nous voir, si on n'a pas justement couvert ces éléments de base, on n'a pas fait les requis en cyber, bien, on va avoir des pénalités beaucoup plus importantes que si on a fait tous les éléments de cyber qui viennent justement assurer la protection des informations confidentielles et personnelles, mais en plus va nous protéger davantage dans l'entreprise. Fait que c'est un deux pour un dans ce cas-ci. Conformité d'un côté et on protège nos informations, les informations de l'autre. Une autre facette très importante que souvent on oublie, c'est la sensibilisation parce qu'on est tous des humains. Et de fait qu'on est tous susceptibles de tomber dans les mêmes pièges, ces éléments-là, et donc on doit avoir une augmentation de notre connaissance globale de la cyber.
Ouais, tout à fait, Nicolas. Concrètement, en fait, on est aujourd'hui sur deux postures en termes de cybersécurité. On a la posture de répondre au légal. Donc, on va mettre en place des mesures, imposées par la loi, mais on a aussi une approche plus proactive. Et la sensibilisation, c'est vraiment très important parce que des employés qui savent, entre guillemets, bien manipuler leurs données, qui savent que s'envoyer des mails ou brancher des clés USB, bah, ça comporte des risques. Au moment où ils vont le faire, ils vont quand même se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette donnée? Est-ce que mon support USB, est-ce qu'il est vraiment sécurisé? Ou est-ce que je l'ai branché avant? Donc c'est quelque chose qui prend du temps et qui doit être répété assez régulièrement. Hein. On voit, c'est pas parce qu'une nouvelle personne arrive qu'on doit absolument la sensibiliser. Oui, c'est bien de le faire, mais c'est un cycle permanent en fait au niveau de ses employés. On y viendra peut-être un petit peu plus tard. Au niveau des réseaux sociaux aussi, on a des risques qu'il va falloir maîtriser. Et la sensibilisation, c'est vraiment important que ce soit sur les bonnes pratiques, que ce soit sur les tendances. Rappeler un peu comme on le fait aujourd'hui que les attaques, c'est au quotidien et que c'est pas... En gros, tout le monde est concerné. Ça peut, c'est tombé chez le voisin à côté, mais ça peut aussi bien tomber chez moi. Quelquefois, on n'est pas la cible des attaques qu'on va subir direct, mais par rebond, on va récupérer une attaque parce que nos systèmes sont tous interconnectés et que, on ne peut pas vivre sans être connecté à quelqu'un d'autre aujourd'hui. Et donc, comment va mon tiers avec qui je suis connecté à côté? Est-ce qu'il est en bonne santé? On doit en parler, on doit pouvoir discuter un petit peu du niveau de sécurité sans aller dans les secrets d'entreprise. Mais globalement, voilà, on a aussi ce devoir de pouvoir diffuser un petit peu la bonne parole, je dirais, autour des aspects de cybersécurité.
Absolument. Et puis, si on est capable d'amener ça dans le discours plus courant et plus quotidien, puisqu'à l'heure actuelle, c'est principalement un discours de spécialiste, qui est un peu, à mon sens, on rate l'objectif parce que le cyber, c'est l'affaire de tous, parce qu'on est tous partie prenante de ça, on a tous des informations à protéger. Et les PME sont un vecteur, tant qu'à moi, très intéressant de sensibilisation, parce qu'on est capable d'aider les employés, un, dans l'entreprise, mais également dans leur vie personnelle, également à faire des gestes qui sont de meilleurs comportements en cybersécurité, qui les exposent également, eux, moins aux différents risques, au phishing qu'on voit, qui est de plus en plus sophistiqué d'ailleurs, qui permet justement d'atténuer ça, ou que les employés vont se retrouver à être, parce qu'ils sont à la maison, comme tu mentionnais, à être attaqués par la maison et en rebond, ensuite remonter dans l'entreprise, par exemple. Parce que tu sais, ces situations-là existent. Il y a eu des cas aux États-Unis médiatisés que justement, c'est un ingénieur d'une firme de développement qui, par rebond, s'est fait attaquer une de ses périphériques à la maison et est remonté jusque dans le réseau de l'entreprise, justement, pour affûter les informations. Ce qui a créé un peu de désagrément pour les utilisateurs de LastPass, parce que dans ce cas-ci, c'est le cas de LastPass, où toute cette chaîne-là est allée jusqu'à la compromission complète de leur système, donc de perte de valeur et perte de confiance face à leurs choses. Puis donc, c'est réel, ces éléments-là et ces conséquences-là. Et justement, en prenant l'exemple, c'est un exemple comme ça, bien effectivement, pour apprendre à détecter et donc à réagir correctement quand on a un incident qui se passe dans nos infrastructures.
Oui, exactement. En fait, le secret, c'est quand même d'être prévenu avant que l'attaque arrive. Si on peut anticiper, on est quand même beaucoup mieux. Hein. Statistiquement, en fait, entre le début d'une attaque et la réalisation de l'attaque, qui va être le blocage du système, on est pratiquement à 6 mois de mise en place, d'exécution, etc. Donc, on a le temps de détecter tout ça. Donc, il ne faut pas avoir peur de lever la main et de dire « Ok, aujourd'hui, je ne sais pas si je suis dans une situation de compromission. Est-ce que quelqu'un est rentré chez moi? Est-ce que quelqu'un prépare quelque chose ?» Il existe des outils, on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est pas le moment, mais il existe des outils qui permettent d'anticiper un petit peu tout ça et de se dire « Ok, là, à date, j'ai des portes ouvertes, j'ai des patchs à mettre, j'ai quelqu'un qui écoute peut-être des choses qui se passent sur mon réseau. Ok, comment je fais ?» Je fais appel à un spécialiste, vraisemblablement, qui va m'aider et qui va me dire « Ne coupe pas tout de suite, hein, essaye de savoir qui c'est, etc. » Mais qui va quand même avoir le bouton rouge pour pouvoir couper au bon moment. Donc, on est sur une détection relativement classique. Quand on est dans sa maison, on va mettre des caméras. Ici, ça peut être un peu pareil dans le domaine de la cybersécurité. On doit avoir une vue de ce qui se passe sur nos serveurs. Et quand on est trop petit, quand on est une PME, on peut faire appel à des services spécialisés qui vont pouvoir faire cette action pour nous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui vont pouvoir lever une alerte en disant « Attention, là, y a quelqu'un qui fait quelque chose de malveillant chez toi. Est-ce que tu le connais? Est-ce que c'est un nouvel employé ?» Enfin voilà, on a toute cette capacité aujourd'hui technologique et le savoir-faire pour pouvoir anticiper ces attaques et faire en sorte qu'on ne soit pas arrivé au blocage.
Ouais, ben justement, c'est important de le voir arriver. De toute façon, il y a plein de firmes, autant au Québec qu'en France, qui sont spécialisées justement dans ce type de surveillance-là. Donc, c'est pas obligé de se soutenir soi-même. On peut faire affaire justement avec une entreprise qui est spécialisée dans ce domaine-là, qui justement va nous aider. Et à ce que je cherche, c'est si peu dispendieux versus le fait de payer le fait d'un incident. Et ensuite, l'autre pendant à ça, c'est comment on doit réagir quand il y a une attaque qui se passe.
Et ben là, c'est aussi toute la question, parce qu'on a peut-être loupé quelque chose au moment de l'installation de l'attaque. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas des attaques qui sont très courtes et qui arrivent tout de suite, qui sont décidées au dernier moment, mais globalement, on a le temps quand même de se préparer à tout ça. Mais quand ça arrive, généralement, on a écrit des procédures. La loi l'impose aujourd'hui par rapport aux incidents de confidentialité, la loi 25, on en a parlé tout à l'heure. Mais globalement, c'est un peu comme, je sais pas, un voleur qui rentre à la maison, on a beau se préparer, on sait pas trop réellement comment on va réagir. Là, globalement, ce qui se passe, c'est que quand l'attaque arrive, nos systèmes sont bloqués, on a peut-être des fois plus accès à rien du tout, on n'est pas spécialiste de cybersécurité. Là, il faut vraiment faire appel à quelqu'un qui sait faire et qui va pouvoir trouver comment réagir, gérer quelles sont les conséquences, quel est l'impact. Parce que des fois, on a peur parce qu'on n'a plus accès à notre système d'information, mais le pirate n'a pas été vraiment plus loin que la première connexion. Donc, les conséquences peuvent être mineures, mais des fois aussi, on peut avoir, quand on parle de rançongiciel, par exemple, on peut avoir tout notre système qui est bloqué et puis un attaquant en face qui demande une rançon pour débloquer. Et là, on est quasiment dans une scène un peu surréaliste, hein. On voit ça que dans les films où généralement il y a une prise d'otage. Là, c'est une prise d'otage de mon business, de mon savoir-faire, de ma propriété intellectuelle. Comment je fais ? Alors, la bonne réaction, c'est de se tourner vers une entreprise qui est spécialisée et qui va pouvoir gérer la situation, tant en termes de négociation qu'en termes de maîtrise de l'impact, de reconstruction. Et derrière, oui, il va y avoir forcément des conséquences, ça va prendre du temps, mais globalement, au moins, on va s'en sortir. Et on va pouvoir repartir. Il y a des entreprises qui ont du mal à repartir, mais parce qu'elles décident de vouloir agir un petit peu toutes seules au départ. Et elles n'ont pas beaucoup anticipé. Et donc, ça peut arriver. Mais globalement, si on arrive à lever la main assez tôt, on peut être pris en charge vraiment de bonne manière.
Oui, dans les éléments d'anticipation, il faut déjà avoir pris contact avec les firmes d'experts en question. Parce que si on arrive au moment où l'incident se passe, puis on appelle les firmes d'experts, on n'aura pas autant de flexibilité ou d'adaptation par rapport aux besoins dans lesquels on se trouve. Donc, c'est important de se préparer adéquatement pour ce genre de choses-là, justement pour que quand le pire arrive, puis le pire, parce que l'histoire récente démontre que le pire finit par arriver là, dans tous les cas, justement d'être prêt et de pouvoir retourner en opération le plus rapidement possible, au moins de coups possibles, justement, dans ces situations-là, quand malheureusement, on n'a pas réussi, nos mesures préalables n'ont pas réussi à protéger les choses. On va aborder le dernier point sur les réseaux sociaux, l'exposition des employés parce que ceux-ci ont une double vie, la vie de l'employé et la vie personnelle, vont jouer sur les réseaux sociaux dans les deux univers parce que les entreprises maintenant sont actives dans les réseaux sociaux et dans leur et les gens dans leur vie privée. Donc, il y a plusieurs éléments à tenir en compte et faire très attention de sur l'usage de ces différentes plateformes-là.
Ouais, tu as tout à fait raison, Nicolas. Si on regarde aujourd'hui, en fait, il y a quand même pas mal d'attaques sociales qui se font via les réseaux sociaux. On va aller regarder, en gros, chez quelle entreprise travaille un employé, quel est son rôle. Et puis, on va pouvoir savoir si, avec son rôle, est-ce qu'il a des droits relativement élevés. Et s'il a des droits élevés, bah, ça va être une cible beaucoup plus intéressante que quelqu'un qui va en avoir beaucoup moins. Donc, s'afficher sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est vital. En fait, on a tous besoin d'avoir une identité sur les réseaux sociaux. Maintenant, il faut quand même garder un petit peu de mesure vis-à-vis de ce qu'on poste. Hein. Je pense que tout le monde a vu ces images avec un mot de passe derrière une photo de quelqu'un qui est en train de parler. Ça arrive encore. Et malheureusement, ça fait beaucoup de mal. Dans certains domaines médicaux, quand on doit réagir à l'urgence, bah, on a un mot de passe qui est collé sur le mur. Ça arrive, ok, c'est pas une bonne pratique, mais globalement, on est tous concernés vis-à-vis de ça. Quand on démarre notre téléphone tous les matins, on entre un mot de passe parce que si on le perd, on veut pas que tout le monde accède à notre vie. Donc, on a cette sensibilisation à faire vis-à-vis des réseaux sociaux. Et en tant que responsable d'entreprise ou gestionnaire, c'est du domaine, en fait, de tous les jours de faire cette éducation, d'aller expliquer que oui, demain, si on fait un test sur notre serveur, on ne prévient pas tout le monde qu'on va tourner que sur une patte. Hein. C'est quand même basique, mais mine de rien, ça arrive encore aujourd'hui d'annoncer typiquement ce genre de choses avec des détails des fois assez croustillants qui permettent aux attaquants de se dire « L'entreprise, là, aujourd'hui, elle va être en difficulté. C'est peut-être le bon moment d'y aller. » Et donc voilà, je pense qu'on a tous un petit peu ce devoir de réserve vis-à-vis de ce qu'on communique sur les réseaux sociaux. Tout ça s'appelle l'exposition globalement externe de l'entreprise. Et donc voilà, je pense que prenons-en conscience et puis vivons avec notre temps aussi. On peut pas non plus complètement disparaître des réseaux sociaux, mais...
D'avoir une saine prudence dans l'usage de ceux-ci. J'aime bien l'idée du droit de réserve justement pour ne pas divulguer trop. On a fait un premier tour d'horizon des points que tu voulais aborder. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas assez parlé que t'aimerais parler de davantage?
Non, moi, à date, je pense que l'idée, c'était vraiment de sensibiliser les responsables de PME. On est beaucoup à être dans cette situation, à se trouver un peu impuissant par rapport à la cybersécurité. Très, très franchement, même sans être abonné à des mailing lists ou à des news sur la cybersécurité, on voit que beaucoup de groupes, même des groupes qui mettent des moyens, arrivent quand même à se faire attaquer. Il faut vraiment rester sensible au fait que la cybersécurité, c'est pas juste aujourd'hui. C'est tous les jours qu'il faut mettre en place les bonnes règles, les bonnes façons de faire. Et puis, il faut pas avoir peur d'aller voir des firmes qui sont vraiment spécialisées. Une chose importante que t'as dit tout à l'heure, c'est appeler une firme quand l'attaque est là. C'est plus compliqué pour la firme si elle a pas déjà travaillé sur l'environnement, si elle a pas déjà commencé à mettre un peu les premières briques de cybersécurité, ne serait-ce que des connexions privilégiées, etc. Généralement, ça facilite un peu d'anticiper ce type de blocage et ce type de problématiques qui peuvent être vraiment, vraiment désastreux pour les entreprises. Et donc, c'est vraiment un travail de tous les jours que de penser cybersécurité.
Oui, merci énormément. C'est super intéressant. On va sûrement se reparler parce que c'est un premier survol. Il y a tellement de choses à dire et tellement de choses à partager sur ce sujet. Merci énormément.
Merci.